Le premier texte que nous lirons se trouve au chapitre 2 de la Genèse, les versets 15 à 17. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver, et plus exactement pour le servir et le garder. Le Seigneur Dieu commanda à l'homme en disant « Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. » Et dans le livre de l'Exode, chapitre 20, au verset 1, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles pour dire « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. » Et dans le Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 19, « J'en atteste sur vous en ce jour le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité, choisis la vie, et tu vivras alors, toi et ta postérité. » Et dans l'évangile de Luc, le début de la prédication de Jésus à Nazareth. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil pour le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, au verset 17 et 22. Rendons grâce à Dieu. Vous étiez esclaves du péché, mais vous avez obéi de tout votre cœur à l'enseignement commun auquel vous avez été confiés. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et un peu plus loin, les mêmes idées. Mais maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous portez les fruits qui conduisent à la sanctification, et leur aboutissement, c'est la vie éternelle. Et des propos relativement similaires dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, c'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous dis, et suit tout un développement sur la circoncision que je ne reprends pas. Et un petit peu plus loin, au verset 13, vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair, mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Dans la déclaration de foi de l'Église réformée de France que nous lisons à chacune de nos assemblées générales, qu'on lit dans les synodes et en bien d'autres occasions, nous lisons « Fidèle au principe de foi et de liberté sur laquelle elle est fondée » et suite ensuite toute une série de déclarations. Si vous observez le site sur ordinateur de notre paroisse Église réformée de la Vallée-de-Chevreuse, et quand vous ouvrez la page d'ouverture, vous constatez, vous voyez une Bible entourée du texte suivant, protestant, et vous voyez cette Bible, ensuite une parole de liberté. Et si vous lisez les principes fondamentaux se trouvant dans la déclaration d'intention de la CIMADE, vous lisez cette formule, « La CIMADE est une des formes du service que les Églises veulent rendre aux hommes au nom de l'Évangile libérateur. » Ces trois textes mettent en avant un mot, la liberté. Est-ce un thème central du témoignage biblique? C'est la question que nous voudrions examiner aujourd'hui. Et mon premier point va être essayé précisément de rechercher dans l'Écriture ce que l'on peut trouver concernant ce mot. Ce mot, qui est d'ailleurs la traduction de beaucoup d'autres mots à la fois du grec et de l'hébreu, il nous faut d'abord essayer de comprendre dans quel contexte il a été dit, et peut-être d'une autre manière, de voir par la fréquence où il apparaît quelle est son importance réelle. Et un constat brutal apparaît. Le mot hébreu « rafash » qui veut dire, dans la racine, veut dire la liberté, nous le trouvons une vingtaine de fois dans la Bible hébraïque ou dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et le mot qui est son opposé exact, qui est le mot « avad » qui veut dire « esclave, servitude », plus d'un millier de fois. Ce qui déjà donne sérieusement à penser. Et nous trouvons exactement la même situation dans le Nouveau Testament grec. Le mot eleutheria se retrouve environ une dizaine de fois, et les mots dérivés de doulos, qui veut dire, qui est l'analogue d'évède et qui veut dire le service, l'esclavage, la servitude, plus près de 200 fois. Alors ceci peut signifier deux choses. Soit que la liberté va être, dans une certaine mesure, découverte par son contraire, et que c'est dans le contraire qu'il faut, c'est-à-dire dans la servitude, dans l'esclavage, dans le service, qu'il faut trouver le sens réel de la liberté, soit que ce mot n'a pas une importance très grande. Il faut sans doute nuancer cette première constatation, peut-être un peu brutale, et qui a de quoi nous étonner. Tout d'abord, l'hébreu est une langue extrêmement pratique, extrêmement simple, et n'aimant pas les concepts philosophiques. Il n'est donc pas étonnant qu'on n'y trouve pas de longues discussions sur la liberté, à l'opposé du grec, qui est la langue reine de la philosophie. Beaucoup d'autres mots, beaucoup plus pratiques, se trouvent dans l'Ancien Testament, que l'on traduit souvent par liberté. Et j'en cite très rapidement, laisser partir, affranchir, racheter. Et j'avais, il y a quelque temps, fait une méditation sur le concept de rachat, arracher, sauver, pardonner même, et surtout, ce qui nous étonne, sortir. Car l'événement central qui est au fondement de la foi juive, c'est la sortie d'Égypte, par le mot donc qui veut dire sortir, et que l'on traduit souvent par libération. Le centre de la foi hébraïque, c'est la libération, et dans une certaine mesure, la CIMADE l'avait bien senti quand elle parle non pas de liberté, mais d'évangile libérateur, comme s'il fallait dans une certaine mesure ajouter à l'évangile quelque chose pour indiquer une de ses principales significations. Le mot « liberté » lui-même est pratiquement absent de l'Évangile, même s'il est fortement développé, comme on l'a lu tout à l'heure, dans deux ou trois épîtres de Paul. Dans la première prédication de Jésus, que je vous ai lue, Luc reprend un texte du prophète Ésaïe, et dans lequel on nous dit « Proclamez aux captifs la délivrance, renvoyez libres les opprimés ». Et curieusement, alors que le mot hébreu dans le texte d'Ésaïe est précisément celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire « rafash », eh bien, Luc ne prend pas, et d'ailleurs suivant sans doute la traduction de la Septante, qui est la traduction en grec qu'il a plus souvent citée dans le Nouveau Testament, Luc prend un autre mot, qui est le mot « aphésis », qui veut dire « laisser aller ». Mot que nous retrouvons d'ailleurs dans le Notre Père, et que nous traduisons de manière très inexacte par « pardonne-nous nos offenses », alors que cela veut dire « remets-nous nos dettes, laisse nos dettes aller, ne parle plus de nos dettes ». La liberté dont il est parlé là dans la traduction d'Ésaïe, alors que le mot « liberté » rare en hébreu est là réellement utilisé, c'est un autre mot grec qui est pris. Il faut donc sans doute dépasser l'usage du mot pour essayer d'approfondir un peu plus ce que cela veut dire, à la fois dans le témoignage de l'Ancien Testament et dans ce que Paul voudra en faire ultérieurement. Prenons d'abord l'Ancien Testament. Ce qui est central, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la sortie d'Égypte, l'événement de la libération. Et curieusement, ce qu'on appelle les sages, ce que les Juifs appellent nos sages, ou également nos rabbins, les sages qui ont donné le fondement du judaïsme jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'enseignement du Talmud, du Midrash et de tous les textes qui y sont associés, pour ces sages, l'événement de libération a curieusement précédé la création du monde. En effet, ils se posent souvent la question, ces sages se posent la question, pourquoi est-ce que le texte biblique ne commence pas par un A, mais par un B, c'est-à-dire non pas par un Aleph grec, mais par un Aleph hébreu, mais par un Bet hébreu. Alors que la signification des nombres, quand on le regarde dans le texte, est extrêmement importante. On va jusqu'à la comptabilité de chacun des versets, et l'on reprend ceci pour en tirer, en particulier dans la Kabbale, toute une série d'enseignements. Pourquoi donc le texte biblique commence-t-il par un bet? Alors il y a plusieurs réponses à ceci, et celle qui m'intéresse aujourd'hui est la suivante. C'est que le texte qui commence par un Aleph, c'est le texte d'Exode 20 que je vous ai lu. Il commence par le mot « anori » qui veut dire « moi ».« Moi, votre Seigneur, je vous ai délivré ». Et dès lors, c'est ce texte qui doit être considéré comme le texte primitif, bien avant celui de Bereshit, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa le ciel, les cieux et la terre. Donc le mot « libération », le concept de libération, de sortie de l'esclavage, de sortie d'Égypte, est tout à fait premier pour la piété juive, et on le fête régulièrement tous les ans dans la fête de Pâques. Mais il est immédiatement associé à un autre mot, le mot « avad », qui veut dire « esclave »,« service esclave ». Ce mot, en fait, apparaît sous deux formes. Une que j'appellerais péjorative ou négative, et l'autre que j'appellerais positive. Sous sa forme négative, il est lié au concept de servitude, d'esclavage, et c'est bien dans ce sens qu'il apparaît dans le texte de l'Exode, alors qu'il est associé à l'idée d'Égypte qui est aussi alliée à l'idée d'esclavage. Sous une forme positive, il apparaît dans le sens de service, et on peut même dire que c'est une des fonctions fondamentales de l'homme. L'homme a été créé pour servir. Au chapitre 2 de la Genèse, l'homme a été créé pour servir dans le jardin d'Éden. Le Seigneur Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour le servir. C'est ce mot qui est utilisé, et non pas le cultiver. Mais on peut dire que servir veut peut-être dire cultiver, car dans l'évolution de la langue, le mot avad et le mot avoda veut dire aujourd'hui, dans un langage tout à fait courant, le travail de l'homme, l'œuvre de l'homme, la création de l'homme est un service. Alors pour certains, le travail est une servitude, mais pour beaucoup d'autres, c'est un service. Dès lors, dans la libération, le peuple passe de la servitude au service. Il passe de l'esclavage sous Pharaon au service de la Torah. Et la figure centrale de ce passage, c'est Moïse. Moïse, dans le livre des Nombres, nous dit, vous savez qu'il y a un chapitre assez extraordinaire sur le peuple qui se révolte et les frères, la sœur et le frère de Moïse qui se révolte contre lui, et Dieu intervient et il dit « Moïse, mon serviteur », donc c'est le mot qui est repris là, « mon homme de confiance, humble plus que tout autre homme sur la terre ». Et l'image du serviteur traverse autant que la libération et plus que la libération, tout le témoignage de l'Ancien Testament culminer sur l'image du serviteur souffrant que l'on voit dans le chapitre 51 et 52 et 53 d'Ésaïe, ce serviteur souffrant dont l'Église voit l'annonce du Christ et dont il nous est dit, lui, mon serviteur, au profit des hommes, du fait que lui-même supporte leur tort. Et dès lors, si l'on voit que dans le témoignage de la Bible hébraïque, il n'y a pas de libération sans service, la libération est automatiquement liée au service, on peut dire que la Simad a eu une bonne intuition en mettant ces deux choses, en s'annonçant service que les églises veulent rendre aux hommes au nom de l'Évangile libérateur. Posons-nous dans un deuxième temps la question de savoir si Paul reprend la même idée. Et on verra qu'il la reprend très fortement. Comme les textes fondamentaux sur la liberté, je vous les ai lus tout à l'heure, je vais un petit peu les commenter maintenant, c'est pour la liberté, et c'est le mot grec classique de liberté qu'on retrouve chez les philosophes qui est pris là, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré, et là on voit un hébraïsme manifeste. Vous êtes libéré pour la liberté, ça fait partie de ces répétitions fréquentes en hébreu qui sont une des formes du superlatif quand on parle de roi des rois, de cieux des cieux et de plusieurs mots associés les uns aux autres. Donc c'est la liberté des libertés, vous êtes libéré pour la liberté. Tenez ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage, et vous voyez qu'immédiatement, et je le répéterai à chaque fois que Paul parle de liberté, dans la même phrase, il y a esclavage. Il y a donc le mot eleutheria est toujours lié au mot doulos, qui veut dire l'esclave, et qu'il est l'analogue du mot éved en hébreu. Moi, Paul, je vous dis, et le fait que Paul prend cette formule, moi, Paul, analogue à celle d'Exode 20, moi, je suis le Seigneur votre Dieu, veut dire qu'il accorde à ce qu'il va dire une importance extrême. Et ce qu'il va dire, c'est ne vous remettez pas sous le joug de la loi qu'il étudie dans ce texte précis sous la forme de la circoncision. Les pagano-chrétiens ne doivent pas s'être soumis à la circoncision, et c'était un des débats d'un des premiers synodes de l'Église primitive. En Galates, il nous dit « Vous avez été appelés à la liberté, que cette liberté ne vienne pas un prétexte pour la chair, et il faut bien voir que ce mot de chair dans le Nouveau Testament est un mot qu'on a souvent mal compris. Il signifie au fond toute l'essence de l'homme, la nature corporelle de l'homme, corporelle et également intellectuelle. L'essence de l'homme, c'est la chair qui est opposée à l'esprit. Non pas à l'esprit platonicien, mais à l'esprit tel que l'Évangile ou le Nouveau Testament le rapporte. Mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Donc immédiatement, liberté, service. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Et même idée dans l'Épître aux Romains, libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Ces deux mots sont ramassés dans la même phrase. Et plus loin, libéré du péché, vous êtes devenu esclave de Dieu. Vous portez les fruits qui conduisent à la sanctification. Donc, on voit bien que suivant la phrase de l'Ancien Testament où dit « Vous avez été libérés de la maison des esclaves, c'est moi qui vous ai libéré et sorti d'Égypte », la libération est immédiatement liée, aussi bien dans les textes hébraïques que dans la pensée de Paul, à ce qu'on peut appeler son contraire, le service et l'esclavage. Et pour terminer, je vais faire deux ou trois remarques sur cet enseignement paulinien. Première remarque, je viens de le dire, mais je crois que c'est ce qui m'a énormément frappé à cette lecture, c'est que Paul ne sépare jamais la liberté de son contraire, de l'esclavage. De même que les esclaves de Pharaon sont devenus esclaves au service de la Torah, de même pour Paul, nous sommes passés d'esclaves du péché au service de la justice ou au service des uns des autres et du prochain, comme nous verrons tout à l'heure. La libération est donc un passage, si je puis dire, d'un esclavage à un autre esclavage. Soyons plutôt plus positifs, d'un esclavage à un service. Mais quel est ce service ? Quel est ce service ? Eh bien, là, Paul est très clair. Mettez-vous au service les uns des autres. Donc, c'est le service du prochain qui est finalement l'appel central de ces passages. On est là aux antipodes de ce que les philosophes des Lumières, à partir de Kant, et puis ensuite ceux qui ont abouti à la Révolution française, ont conçu pour le thème de la liberté qui figure dans la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Dans ce contexte, et tous ces philosophes se sont posé la question qui est immédiate dès que l'on parle de liberté, quelle est la limite de la liberté ? Et la réponse qui a été trouvée, c'est que la liberté, la limite de la liberté, est la liberté de l'autre. Et on peut presque imaginer ceci en disant que chaque personne a autour d'elle un espace de liberté, comme une sphère de liberté, et que ces sphères, la limite de cette sphère, c'est la sphère, c'est toutes les autres sphères de toutes les libertés des autres. Et ça n'est pas du tout l'image paulinienne. Eh bien, l'autre n'est pas la limite de la liberté, il en est le centre. Il est le centre, car la liberté vous ouvre vers le service, et le service de l'autre, ce n'est pas quelque chose qui est à la limite de ma liberté, mais qui en est le fondement. Le service, la liberté, ouvre immédiatement sur ce service. Il y a là une image qui me paraît très frappante sur la différence entre la liberté vue par la philosophie des Lumières et celle qu'attestent les Évangiles. En d'autres termes, on peut reprendre une des expressions que affectait Dietrich Bonhoeffer dans pas mal de ses textes quand il parle de la grâce qui coûte par rapport à la grâce à Montmartre. On peut dire que la liberté dont parle Paul, c'est la liberté qui coûte, c'est la liberté qui nous ouvre vers le service et non pas la liberté qui sert à mon épanouissement personnel et à ma propre volonté. Et pourtant, et c'est une troisième et dernière remarque, il nous dit, ne vous remettez pas, vous êtes libre, ne vous remettez pas sous le coup de l'esclavage. Et son discours est un discours sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la question de la circoncision, mais plus généralement sur la question de la loi. On pourrait penser que Paul justifie ceci par une sorte de reprise des thèmes que l'on trouve largement développés dans le Nouveau Testament sur l'hypocrisie des pharisiens, vous pharisiens hypocrites, sur l'hypocrisie d'un respect trop scrupuleux de la loi qui opposerait la lettre de cette loi et l'esprit de cette loi. Ça n'est pas du tout la vision de Paul ici. Son argument central, c'est la fidélité au Christ. Il n'est pas, si je puis dire, un libéral par rapport à la loi. Son argument, c'est que si vous placez votre justice dans la loi, vous êtes déchu de la grâce. Il n'est donc pas là pour s'opposer à ce qu'on pourrait appeler l'hypocrisie d'un respect trop scrupuleux de la loi, mais ce que la loi, par le Christ, est devenue caduque. Elle est devenue autre chose. Et en vous soumettant à la loi, vous niez la mort et la résurrection du Christ. Ainsi, se soumettre à la loi, devenir esclave de la loi, plutôt qu'être esclave de la justice ou esclave du prochain, nous dit Paul, c'est rompre avec le Christ. Cette double polarité, pour conclure, cette double polarité, liberté-service, liberté-esclavage, Luther l'a très bien vu dans une de ses formules choc et frappantes, peut-être un peu exagérées, mais qu'il me paraît tout à fait approprié de lire maintenant. Quand il nous dit dans son traité sur la liberté du chrétien, publié en 1520, « Le chrétien est un libre seigneur de toutes choses et il n'est soumis à personne. » Liberté absolue. Et immédiatement après, « Le chrétien est un serviteur obéissant en toutes choses et il est soumis à tous. » Donc, on retrouve à la fois la même idée qui apparaissait dès l'Ancien Testament, reprise par Paul, affirmée par Luther, du lien entre liberté et service, entre, je dirais pas, liberté et esclavage, sortie de l'esclavage pour le service. Liberté absolue chez Luther, parce qu'elle est fondée en Christ. Service des autres, parce que c'est ce qui nous est annoncé et demandé également par Christ. Car c'est dans l'autre, comme le Christ nous l'a dit, que nous trouvons l'image, la seule image visible de Dieu. Jésus nous invite à suivre ce chemin, chemin qui n'est pas facile, ni facile à comprendre, ni facile à suivre. Mais mieux, non seulement il nous l'annonce, mais il nous le trace pour nous. Que sa force et que sa main tendue soient pour nous aide et joie pour le suivre. Amen.